Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies.
Si tu dis un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, on est ensemble pour une heure de Radio Par et pour les personnes queer et celles qui se cherchent encore. Prenez place autour de la table du lobby où vous accueille une équipe aussi fabuleuse que foisonnante. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors dans les voix qui viennent de s'exprimer, vous avez peut-être reconnu celle de Javel. Salut Javel.
Salut.
De quoi on parle? De cinéma je crois.
De cinéma, d'amour et d'amitié lesbienne.
Miam. Chat est aussi avec nous, salut Chat.
Salut Colin.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça pioupioute.
D'accord, tu m'as dit ça en plus avec un air vraiment pénétré, je suis presque très inquiète de ce qui va se passer. Tout à l'heure, ce sera le retour d'Aglaé. Salut Aglaé.
Coucou.
Et avec toi, on remet un coup de projecteur sur l'AJL, c'est l'association des journalistes LGBT, qui nous invite à un bal de promo ce samedi.
Et oui, on va en parler avec Juliette Cordemanse pour la cérémonie donc Out Prom.
Et puis, ce sera vers 20h40. Avec moi également, Lucie. Salut, Lucie.
Bonsoir, Colin. Bonsoir, tout le monde.
Bon, avec toi, on va découvrir nos invités de la soirée, puisqu'ils sont deux pour l'instant avec nous jusqu'à 21h. Le premier est désormais un habitué du lobby, journaliste et militant contre le VIH. On l'a lu dans les colonnes de Tétu. Il a créé des médias comme YAG et Committed. Il a été aussi président d'Act Up Paris. Il est désormais président de l'association Vers Paris et la Seine-Saint-Denis sans SIDA, qui organise une journée de mobilisation et de réengagement contre l'épidémie. Ce sera au Théâtre de la Concorde le 20 novembre. Journée à laquelle participe notre deuxième invitée, Lucie.
En effet, on a une artiste drag incontournable qu'on a découverte en 2022 dans Drag Race France, une émission dans laquelle elle a révélé sa séropositivité. Aujourd'hui, elle est le visage de la franchise Drag Race Mexico, son pays d'origine. Bonsoir, Lolita Banana.
Sous les applaudissements, Christophe Martel et Lolita Banana. Et merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Battant, battante à l'inclusif, nous pouvons battre le sida d'ici 2030. C'est donc une soirée de réengagement contre le VIH organisée par l'association Vers Paris sans sida et la Seine-Saint-Denis sans sida. L'occasion de réunir divers acteurs de la lutte contre l'épidémie, qu'ils soient institutionnels, médicaux, militants, des artistes aussi, on va en reparler. C'est d'ailleurs un peu la raison d'être, j'ai l'impression, de cette association. Tu me diras ce que t'en penseras, Christophe Martel. Réunir un peu ces acteurs, les mettre en lien.
Oui, alors ce qu'on a voulu, merci déjà beaucoup pour cette invitation, et puis j'aime beaucoup être ici, il fait chaud, on y est bien, et en fait ce qu'on a voulu c'est à 5 ans de la fin de l'épidémie, enfin en tout cas de l'objectif de la fin de l'épidémie en 2030, on a souhaité faire un peu le point pour se dire, on a réussi beaucoup de choses quand même à Paris, en Seine-Saint-Denis et au-delà, c'est-à-dire en termes de baisse des contaminations, en termes de prise de la PrEP, etc. On a réussi beaucoup de choses et il faut déjà pouvoir le célébrer. Et moi, j'ai vraiment voulu, en lançant cette opération, me dire il y a un tissu associatif extrêmement puissant à Paris, en Seine-Saint-Denis, qui concerne et qui est fait par et pour les personnes concernées, les populations clés, les travailleuses, travailleuses du sexe, les associations trans, les personnes migrantes, les gays, les personnes bi, les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Toutes ces associations-là, elles méritent vraiment nos applaudissements, elles méritent notre reconnaissance, parce que c'est avec elles et c'est pour elles qu'on monte ces opérations de dépistage, d'action de terrain. Et c'est ce qu'on a voulu faire pour cet événement dont tu as parlé, Battante, parce qu'on a voulu justement montrer à quel point ce tissu associatif est fort, mais qu'aujourd'hui, on travaille dans un contexte qui devient de plus en plus difficile. Mmh. Voilà.
Pourquoi plus difficile?
Parce que on voit bien que les politiques sont de plus en plus dures, notamment sur justement les personnes trans, il y a énormément de remise en cause des droits. On voit que sur les personnes migrantes, il y a une remise en cause de l'AME. Donc l'AME, c'est l'aide médicale d'État qui permet à n'importe quelle personne étrangère qui est sur le territoire depuis 3 mois de bénéficier de soins. Ça, c'est remis en cause. On voit aussi, et ça me touche en particulier en tant que personne séropositive, qu'on ne renouvelle renouvelle plus les titres de séjour pour soins. Mmh. On s'est battu pendant des années pour que les personnes vivant avec le VIH, mais pas que, les personnes malades, puissent bénéficier d'un titre de séjour pour soins quand elles sont en France. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Il y a des personnes qui reçoivent des OQTF. Elles sont installées, elles ont des enfants, elles ont un travail, elles sont insérées dans la société. Et du jour au lendemain, on va leur dire, bah non, maintenant, ce n'est plus un motif valable. Le VIH n'est plus un motif valable de séjour. Et donc ça, c'est... Enfin, moi, ça me crève le cœur de constater ces situations.
C'est un cancer.
Ben, ouais, oui, je vois que Lolita, toi aussi, tu ouvres des grands yeux. Oups, en entendant
quelqu'un,
ça.
Si quelqu'un veut se marier avec moi,
voilà,
j'ai 6 mois pour changer mon titre de séjour.
Donc, c'est vrai que ça devient de plus en plus préoccupant. Et donc, je parlais de ce contexte qui est très dur. On sait ce qu'il faut faire. On a les outils pour mettre fin à l'épidémie. Je parlais de la PrEP, je parlais du dépistage, le TROD, le fait d'avoir le TPE, le fait d'avoir énormément d'outils à nos dispositions. Malheureusement, le contexte politique est très dur. Et alors, sans parler effectivement d'un contexte international encore plus difficile, puisque ce soit Trump, mais pas seulement Trump, en France, il faut le savoir, je viens de relire les chiffres pour préparer un petit peu l'émission, on est à plus de 2 milliards d'euros qui vont être en moins sur l'aide au développement dans les 3 dernières années.
Oui, parce qu'on a reçu en avril pour parler effectivement du gel du financement de l'aide américaine au développement sous l'administration de Trump. Mais voilà, en France aussi, effectivement,
en France aussi.
Il y a ces choix qui sont...
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que des personnes vont être poussées à devoir migrer parce que dans leur pays d'origine, elles n'auront plus accès à des traitements, elles n'auront plus accès à des moyens de prévention. Donc, on est dans un contexte qui est vraiment très, très difficile. Mais nous, on se laisse pas abattre. Enfin, voilà, depuis le début de cette association, depuis le début du combat contre le sida, si on avait voulu baisser les bras, ben, on l'aurait déjà fait. Donc, non. On va pas se résigner et on va célébrer. Et je tiens vraiment à remercier justement Lolita Banana ainsi que tous les artistes et les acteurs de cette lutte pour nous avoir accompagnés dans cet événement le 20 novembre prochain et qui le font, je précise, gratuitement.
Et justement, parmi les artistes programmés au Théâtre de la Concorde ce 20 novembre, il y aura Lou Trotignon, Noam Saint-Saul, Nadège Saint-Gêne, Frida, le collectif Descendantes de Compagnie, et donc toi aussi.
Descendantes de Combattantes, pardon, c'est ma faute.
Pardon. Et donc toi aussi, Lolita Banana. Est-ce que l'association, comment est-ce que l'association Vert Paris et Seine-Saint-Denis sans SIDA a pensé ce casting? Est-ce que t'as...
Alors, ce qu'on a voulu, c'est justement faire appel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement est en deux temps. La première partie, c'est l'après-midi. Avec des restitutions de tout un travail qu'on a mené en amont avec les associations depuis le début de l'année. On a travaillé sur qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'il faudrait maintenir comme action importante, qu'est-ce qu'il faudrait aussi créer comme action importante pour créer une espèce de plaidoyer en 22 mesures aujourd'hui, 22 mesures des plaidoyers pour dire voilà comment on va mettre fin à l'épidémie. On a travaillé en parallèle avec des scientifiques, des chercheurs, des médecins pour dire ce sont quoi les indicateurs aujourd'hui de l'épidémie, comment on peut montrer qu'on est efficace et quels autres indicateurs il faut utiliser. Typiquement, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui se dépistent trop tardivement. Et ça, c'est un problème pour eux, parce que bien sûr, ils ne connaissent pas leur statut. Donc, ils ne peuvent pas se soigner. Et puis, c'est un problème aussi en termes de transmission de l'épidémie. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire depuis le début de l'année. Et là, on va restituer ça l'après-midi. Et le soir, on a voulu, évidemment, des artistes et des personnes qui soient représentatives et qui soient de leur communauté. Des communautés afrodescendantes, des communautés migrantes, des personnes LGBT, des personnes trans. Il était hors de question qu'on puisse avoir un casting complètement déconnecté des réalités. Et vraiment, encore une fois, je remercie tous les artistes que tu as cités parce que, encore une fois, ils viennent gratuitement. Ce n'est pas toujours le cas.
Ouais. Des réalités aussi des gens qui sont le plus exposés au VIH parce
Exactement.
Que davantage marginalisés, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et je précise, du coup, ça va aller dans le sens de ce que tu disais, qu'il y avait un battle de voguing qui est prévu aussi, qui va réunir la House of Unbothered Cartier et la House of Telfar. L'occasion d'ailleurs de rappeler que Vert Paris et la Seine-Saint-Denis sans SIDA, vous aviez entre guillemets surfé sur la vague, je ne le dis pas négativement, du voguing en proposant des bowls ouverts à tous, gratuits, avec une campagne d'affichage assez remarquable. Des bowls au cours desquels vous proposez des dépistages. C'est un peu une façon aussi d'aller vers des communautés qui sont un peu loin de la prise en charge du dépistage et aussi de la prévention, c'est ça?
Exactement. En fait, les actions, on se rend compte que les actions qui marchent le mieux de dépistage, c'est notamment ce qu'on appelle l'aller vers, l'outreach. Il ne s'agit pas de dire aux gens, voyez, vous avez des centres de dépistage, allez-y. Non, il faut aller là où sont les gens, là où ils vivent, dans leurs conditions de vie, dans les gares, sur les marchés, dans les centres de domiciliation. Et tu parles de, Colin, tu parles des bowls, il se trouve qu'on n'arrête pas et que le 29 novembre, on organise un immense bowl à l'hôtel de ville, OTA, Open to All, c'est le titre de Oh Yes, Protect Your Health, Protect Your Legacy, Open to All. Et en fait, c'est l'idée, alors c'est à la fois de faire un bowl pour avoir des performances, des personnes qui viennent dans la compétition, mais aussi pour lancer une charte de prévention, parce qu'on forme actuellement, on est en train de former les membres des houses, des maisons à Paris, pour qui est la deuxième scène au monde de voguing. On est en train de former des mothers, des fathers, des kids, pour justement autour des questions de santé sexuelle, de santé mentale, parce que on voit que dans cette population, il y a encore énormément d'informations à diffuser. Et à partir de là, ça veut dire que ces kids, ces mothers, ces fathers pourront diffuser l'information dans les houses, et ça va donner normalement une plus grande visibilité aux actions de dépistage, aux actions de terrain.
Bon, donne pas de vocabulaire sur les house, les mother et les father. On a fait toute une émission cet été avec Lucie sur le voguing, et pas qu'avec Lucie d'ailleurs. Donc vous pourrez vous reporter à cette émission sur le documentaire Voguing d'Amandine Gay qu'on a réalisé cet été. Lucie.
Et Lolita, quand on est venu te chercher pour cet événement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu t'es dit tout de suite j'accepte, j'y vais, c'est important. Enfin, comment ça s'est passé?
Oui, bien sûr. Et déjà, j'étais très, très et reconnaissant qu'elle m'a proposé de faire partie de cette journée spéciale.
Ouais.
Et oui, la seule chose que j'ai dit, c'est juste laissez-moi voir si j'ai pas autre chose à faire ce jour-là. Et heureusement, c'était pile, j'étais libre. Et oui, je suis content de partager la scène avec les gens que tu as mentionnés avant. Que je pense que c'est un cast très divers.
Ouais.
Et qui représente exactement l'image queer de France. Et bien sûr que je suis content de faire partie de cette image, quoi.
On va reparler aussi de la visibilisation que tu as choisi de faire de ta propre séropositivité. Mais avant, cette journée de réengagement, c'est aussi l'occasion de parler des victoires remportées dans la lutte contre l'épidémie depuis le texte de 2014 qu'on appelle la Déclaration de Paris, qui a acté un petit peu la naissance aussi de Vers Paris sans sida et qui vise à battre le VIH, donc zéro contamination, zéro décès et zéro stigmatisation aussi du VIH dans le monde, mais donc, en ce qui nous concerne à Paris, en Saint-Denis à l'horizon 2030. Et justement, Lucie, toi, tu vas nous parler d'une exposition qui raconte les évolutions de cette lutte contre le VIH.
Oui, en juillet dernier, je suis allée voir une exposition collective à Paris qui s'appelait Pierrot Cowboy à la Villa Ribeurol, qui était curatée par Clémentine Oberkampf. Chaque artiste nous présentait son interprétation du personnage de Pierrot. Le jeune artiste Léo Mouisset nous raconte sa version de l'histoire. Donc, c'est après de longues heures passées sur Grindr, Pierrot a rendez-vous avec un garçon chez lui. Ça l'obsède, il a tout prévu, tout répété, enfilé son jockstrap et avalé sa PrEP, sauf que le garçon ne viendra jamais. C'est une installation qui raconte la frustration, l'attente et la transformation d'un souvenir amer en récit fier et amusé. L'installation, c'est comme si elle représentait un bout de sa chambre. On y voit une poire à lavement, un jockstrap collerette, des clopes et des chewing-gums en céramique qui traînent et une grosse part de gâteau bleu ciel avec une montagne de crème fouettée. Trois étages et en guise de topping, il y a des comprimés de PrEP, eux aussi en céramique d'un bleu ciel brillant, magnifique. Donc la PrEP, moi j'en entends parler comme un comprimé banal parmi mes amis PD, il y en a un certain nombre qui la prennent. Mais cette œuvre, elle m'a émue parce que l'intégrer à une recette de pâtisserie délicieuse et le fait de la rendre appétissante, de la transformer en bonbon sucré, c'est l'associer au plaisir et ça rappelle à quel point son arrivée a fait beaucoup pour faire reculer l'épidémie.
Voilà, et on mettra la photo que tu viens de nous partager, Lucie, sur le compte Instagram du Lobby et sur le site de Radio Campus Paris. Christophe, tu t'en parlais au tout début de cette émission, la PrEP, effectivement, on en parle à peu près à chaque fois que tu viens dans cette émission, à savoir à peu près toutes les deux semaines.
Non, c'est... j'aimerais bien, mais bon.
Nous aussi, mais bon, c'est un peu une révolution, effectivement, dans la lutte contre l'épidémie. Est-ce que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui? Est-ce que, et du fait aussi de ton action militante, on a réussi à en faire un peu un petit bonbon appétissant, pour paraphraser ce que disait Lucie.
Oui, alors je dirais pas que c'est un bonbon appétissant, ça reste quand même un médicament qui peut être difficile à prendre, enfin en tout cas non, mais qui marche très très bien et qui est très bien toléré pour la plupart des gens. Alors, dans la communauté, on va dire, des hommes gays vivant dans les grandes villes, oui, ouais, la PrEP a été complètement prise et acceptée. Il reste encore quand même, y compris chez les personnes ayant des hommes et des relations sexuelles avec les hommes, y compris, il reste encore des résistances, voire des informations manquantes un accès qui n'est pas aussi, qui est pas aussi important que parmi dans la communauté gay, on va dire, pour faire simple, et notamment justement chez les personnes étrangères, migrantes, les hommes gays migrants, mais aussi bien sûr, et ça c'est le vrai point noir, c'est le fait que la PrEP reste à plus de 95% diffusée chez les hommes. Et ça, on voit bien qu'alors que pour les femmes, il y a quand même un vrai besoin, une vraie nécessité. Mais on verra, on publie un livre blanc pour l'événement Battante. Et notamment, il y a cette directrice de Icambéré, qui est une association auprès des femmes afrodescendantes, et qui m'expliquait que parfois, des femmes qui en ont besoin, qui expriment le besoin de PrEP, vont voir des médecins et qu'on leur dit « Non mais attendez, madame, vous n'êtes pas une prostituée ?» Carrément. Donc voilà, on en est un peu là aujourd'hui.
Très intrusif quand même.
Oui, et il y a vraiment des encore une fois des stéréotypes, il y a encore des idées fausses, y compris dans le domaine des médical. C'est pour ça que nous on a créé aussi des brochures à destination des médecins pour prescrire la PrEP. Mais ça c'est vraiment le besoin important, urgent. On espère beaucoup de la PrEP injectable parce que de fait, une injection tous les 6 mois, voilà, bah, une injection tous les 6 mois. C'est plus simple, c'est discret, parce qu'on n'a pas besoin de se dire c'est quoi ce médicament que tu as sur la table, etc. Et ça, on se dit, ça va être un game changer pour beaucoup de femmes, on l'espère en tout cas, qui pourront prendre la PrEP.
La PrEP injectable, c'est pas encore commercialisé en France. Enfin, il faut attendre que ce soit remboursé par l'assurance maladie. Il y a des négociations en cours, c'est ça.
Tout à fait.
On espère que ce soit un horizon dans quelques années, mais c'est pas encore...
Peut-être avant, j'espère en tout cas, mais c'est vrai que pour l'instant, le prix est prohibitif, puisqu'on parle de 20 000 euros, donc pour l'instant, c'est pas possible.
C'est impossible, oui. Lolita, hors drag, tu t'appelles Esteban Inzua, tu es née au Mexique et tu vis à Paris depuis 2011, je crois.
2009,
excuse-moi. En 2022, dans l'émission Drag Race France, tu as pris la parole pour parler de ta séropositivité. On t'écoute.
Je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. Non, en fait, non, pas du tout. Mais je suis séropositive et quand j'ai parlé avec mes parents de ça, c'était dans un mood de... Tout se passe bien, en fait, il n'y a pas de drama. Et en fait, j'essaie de faire l'attention, de faire beaucoup d'attention à mon corps, hygiène de vie, à mon corps. Parce que j'ai envie de montrer à mes parents et à tout le monde qui me regarde que être séropositif, ce n'est pas être maigre et avoir la tête d'un zombie, un cadavre, c'est plus ça. Et ça me rassure de les rassurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, que je suis un adulte homosexuel, queer, drag queen, séropositif, latino, immigré, tout ça, et que je veux, et que ça va.
Que tu embraces ça. Wow, chérie.
Est-ce que, avant de commencer l'émission, tu pensais en parler? Est-ce que tu avais prévu d'en parler?
Oui, et justement, j'avais parlé avec mon copain, et Charlie, qui est toujours mon copain. Et qu'est-ce qu'il pensait, parce que on savait que sa famille allait voir l'émission et s'il était prêt à parler de ça avec sa famille. C'est surtout la famille de mon copain qui m'intéressait, parce que ma famille au Mexique, ils sont au courant et je pensais pas trop à ça. Donc on a parlé, il m'a dit oui, vas-y. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée de faire le... Parce qu'en fait, si vous rappelez, là, ce jour, j'ai sorti avec le runway de Mylène. Le thème, c'était Mylène. Et j'ai fait un peu mes recherches, parce que je ne connaissais pas beaucoup de Mylène, j'avoue. Et j'ai fait mes recherches, j'ai dit de quelle façon je peux me rapprocher de Mylène. Et j'ai découvert la chanson « Je te rends ton amour ». Et tout ce qu'elle a fait juste avec Act Up et avec la vidéo. Et nanana. Du coup, j'ai dit « Ah, bah, ça parle très bien. » Et du coup, ça va tomber bien pour parler pour utiliser ça comme prétexte pour parler. Et c'est Charlie, mon copain, qui a eu l'idée. Parce qu'à la base, je voulais sortir avec la tenue de Mylène et sortir avec les rubans rouges ou quelque chose comme ça. Et lui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas quelque chose qui te représente plus, qui est plus actuel que c'est le U égale U ?» Et c'est l'idée de Charlie de faire ça avec les mains. Et j'ai trouvé ça une très, très bonne idée. Et parce que c'est vrai que, oui, maintenant, je pense que nous, en tout cas moi, personne séropositive, une des choses qui m'intéresse le plus en parler, c'est justement le fait d'être indétectable et intransmissible.
Oui, voilà, U égale U, on va rappeler ce que ça veut dire, effectivement, comme on le fait à chaque fois qu'on fait une émission sur le VIH. Donc, quand le VIH n'est plus détectable lors d'un test de dépistage, ça veut dire qu'on ne peut plus le transmettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a plus, qu'il y a une rémission, mais on ne peut plus transmettre la maladie.
Exactement, exactement. Et c'est drôle que tu dois à chaque fois redire ça.
Mais peut-être qu'on va recevoir des mails d'auditeurs et d'auditrices qui vont dire c'est bon, on sait maintenant.
À chaque fois, au moins une fois par semaine ou par mois, je dois faire l'éducation à quelqu'un, à un plan cul ou à quelqu'un tout simplement qu'il ne connaît pas. Je trouve ça un peu scandaleux que tu sois une personne adulte avec une vie sexuelle et que tu ne sois pas au courant de ce que ça veut dire indétectable, parce que du moment que tu as une vie sexuelle, c'est ta responsabilité d'avoir les informations qu'ils sont everywhere en plus. Du coup, shame on you. Mais bon, si on est là pour éduquer les gens, tant qu'à faire ça. Donc, oui, je savais que je voulais parler de ça à un moment donné de l'émission. Je ne voulais pas arriver au premier épisode et dire « Ah, je suis séropositif !» Non, je voulais attendre un peu parce que c'est quand même ouvrir, c'est quelque chose très, très personnel. Ouais. Au moment que j'ai abordé le sujet, je ne pensais pas du tout à faire des émissions de radio ou faire partie des shows, Act Up et tout ça. Ce n'était pas du tout politique dans ma tête. C'était juste un acte de ouverture personnelle de ce que je suis. Et je savais que mon histoire allait toucher quelqu'un et allait conforter quelqu'un et allait donner du espoir à quelqu'un. Parce que moi, j'aurais aimé écouter quelqu'un dans un contexte positif et dans un contexte pas dramatique et pas de victimisation. Dire oui, je suis séropositive et ça se passe super bien. Au moment que j'ai appris ma séropositivité, j'aurais adoré avoir la référence de quelqu'un qui le vit bien et que c'est plus. Parce que même si à l'époque, ça fait 12 ans maintenant que j'habite avec le VIH, même si à l'époque on savait que tout se passe bien, que personne meurt, en tout cas en France, meurt de VIH, c'est quand même. Damn girl, you got it. Et j'espère que maintenant les gens. On avec l'histoire de Lolita Banana, ils disent ok, putain, on a le droit de faire ça.
Oui, ça va.
Je suis séropositive, mais j'ai vu, il y a un travelo, la mexicana, qui rigole et que c'est pas très dramatique. Et du coup, peut-être ça va alléger un peu mon histoire. Et en fait, c'était ça. Et il y a Gabriel García Márquez, le prix Nobel de Colombie, qui dit on devient universel quand on parle de soi-même. Et je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Évidemment, après l'émission de Drag Race, beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup, pour me dire, Lolita, et grâce à toi, je peux parler avec ma famille de ma séropositivité, à mon partenaire, et je ne me suis pas suicidé. Vraiment, des histoires intenses. Après, attention, je suis juste un drag queen, je ne suis pas psychologue. Non, j'ai dit ça, je rigole, mais je le dis. J'ai dit ça en rigolant, mais je l'ai dit pour de vrai, parce qu'à un moment donné, les gens viennent vers moi pour me demander des informations, de où est-ce que je dois aller, quel traitement je dois prendre. Girl, I don't know. Si je savais, je ne serais pas séropositive. Non, pour de vrai. Et j'essaie à chaque fois de canaliser vers les gens, vers les kiosques, avec les associations qu'il faut, à l'hôpital Saint-Ouen où je suis traité. Mais finalement, j'ai un peu peur de dire n'importe quoi parce que je suis juste un danseur qui met une perruque. Je n'ai pas du tout l'information ou même la façon de parler avec les gens. Tu vois, je suis un peu brute quand je parle. Du coup, je sais qu'il faut... Et c'est délicat. Du coup, ne venez pas vers moi quand vous avez quelque chose. Allez vers les associations qui sont faites pour ça.
Oui, qui font un super travail.
Lolita, t'es née au Mexique en 1985.
Oui, l'année où j'ai découvert ma séropositivité.
Exactement, c'est ça ma question.
Tu veux en venir avouer mon âge.
Non, les gens ne sont pas si forts en calcul mental.
Ça fait à peu près quoi,
2025. Girl.
Je voulais.
Tu es très jeune.
Vous parler de. Vous faites partie donc, on pourrait dire, deux générations différentes, enfin avec cette date qui est un
largement.
Peu une charnière. Qu'est-ce qui
a. On va vexer tout le monde.
Oh là 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 là, pardon. Une question indélicate.
Comment ça vous est, toi, ton âge et après.
Qu'est-ce qui a changé entre vos deux générations au moment où on découvre son diagnostic, à votre avis.
Tout, non.
Bah, en 85, on savait rien. Donc en fait, moi, quand je l'ai appris, ça.
85 et t'as appris. J'étais en train de naître.
Bah, tu viens de naître. Wow.
Et toi, tu fais partie des premiers.
Oui.
À s'être
et en fait,
en
bizarrement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, le monde s'est écroulé, etc. Moi, on savait rien. Donc on nous disait, dans 5 ans, on aura un vaccin, on aura un traitement. Donc voilà. Et puis quand la plupart de mes amis proches, vraiment très proches, mon colocataire, des amants, des amis très proches, sont tombés malades et sont morts, je me suis dit, mais puis moi que j'étais pas très en forme, vers 89, 90, ben là je me suis dit, on nous a caché des choses, on nous dit pas tout, c'est pas si on va pas y arriver. Et donc c'est là où je me suis engagé. Mais c'est vrai que à une certaine époque, les médecins étaient toujours impuissants, donc ils étaient à dire aux gens, bah vous savez, il y a pas beaucoup d'espoir. Alors que finalement, il faut quand même toujours donner l'espoir aux gens et aussi informer, parce que comme tu l'as dit.
C'est de cette époque le film C'est un battement par minute, non?
Oui, enfin c'est plutôt c'est un peu plus tard, 90-91. Ouais. Parce que bah, dès que tu es informé, tu te dis je vais peut-être participer à des essais thérapeutiques, je vais peut-être aller dans les associations. Et le fait, moi en tout cas, j'ai dit pendant longtemps qu'ACT UP c'était mon meilleur antirétroviral. Quand il n'y en avait pas, bah, moi je sais que le fait de militer, le fait de me battre, et encore une fois, je ne dis pas que c'est un exemple, c'est juste mon histoire, comme tu l'as dit, chaque histoire est différente. Je ne suis pas en train de dire c'est ça qu'il fallait faire, mais en tout cas, moi je sais que ça m'a permis de tenir. Finalement, il fallait tenir. Et puis en 96, bah, clairement, ça a tout changé puisque là, les antiprotéases sont arrivées.
Dis-moi pourquoi, bébé, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Tu m'as dans la tête, on se voit tous les jours. Tu me manques déjà, oh bébé, dans tes bras. Dans ses bras, ah 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 ah, dis-moi pourquoi, ah 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 ah, tu montes, tu croises les doigts, ah 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 ah, dis-moi pourquoi, ah 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 ah, c'est encore elle et toi. Dis-moi pourquoi tous les jours on se prend la tête. J'ai retrouvé dans ta bedroom quelques surprises en latex, quelques bobos sur le cœur. Mais maman dit que je suis la plus belle. Je fais des croches pas dans la cour, jette les garçons à la poubelle. Au chevaux de l'Ukraine, je te veux rien pour moi. S'il te plaît, garde-moi. Ou mes tiens te chantent, je n'y reste loin de moi. Loin de moi. Viens, on va danser. Sans diamants sur les dents. J'ai envie qu'on rentre. On va ken dans tous les sens. Satin sur les jambes. Tes mains sur ses hanches. Je te fais tourner dans la fête. Mais je te perds sur la piste de danse. Loin de moi. J'ai mal. J'ai mal. Dis-moi pourquoi. J'ai mal. Dis-moi, ah, ah, ah. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tous les jours on se prend la tête. J'ai retrouvé dans ta bedroom quelques surprises en latex. Quelques bobos sur le cœur. Mais maman dit que je suis la plus belle. Je fais des croches pas dans la cour. Jette les garçons à la poubelle. Dis-moi pourquoi tous les jours on se prend la tête. J'ai retrouvé dans ta bedroom quelques surprises en latex. Quelques bobos sur le cœur. Mais maman dit que je suis la plus belle. Je fais des croches pas dans la cour. Jette les garçons à la poubelle.
h 29 sur Radio Campus Paris. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Lucie?
On écoutait Dis-moi pourquoi de Sheng, qui est une artiste de rap et d'hyperpop qui chante en mandarin et en français et qui est fièrement bi. Son album est sorti cette année et elle sera ce mercredi 12 novembre en concert. C'est demain à la Machine du Moulin Rouge avec plein d'autres artistes, dont Baby B.
Qu'on aime beaucoup dans cette émission, je crois savoir.
On
est toujours en compagnie de Christophe Martet, président de l'association Vert Paris et la Seine-Saint-Denis Sans Sida et de la drag queen Lolita Banana à l'occasion de la soirée Battant, Battante au théâtre de la Concorde. Ce sera le 20 novembre. Entrée gratuite sur réservation. L'occasion aussi de faire un petit retour en arrière sur les victoires remportées sur l'épidémie, Lucie.
Oui, depuis plus de 40 ans, les personnes qui vivent avec le VIH ont été contraintes et forcées de devenir des expertes du virus, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, faute d'une prise en charge satisfaisante de la part des pouvoirs publics. Ça conduit à une forme d'autogestion communautaire et ça rejoint l'idée du « jamais rien pour nous, sans nous ». Comment ça se traduit concrètement, cette idée-là, Christophe, du « jamais rien pour nous, sans nous ».
Alors concrètement, pour nous, en tout cas vers Paris sans Sida, c'est le fait que tout ce qu'on va faire, toutes les actions qu'on va mener, c'est pour et par et avec les associations et avec les personnes concernées. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, il s'agit vraiment de co-construire ensemble des actions qui vont correspondre aux besoins du terrain.
La lutte contre le VIH, elle passe aussi par le choix des mots, par la sémantique, et c'est un petit peu ce qu'on parlait de ça en amont avec Lucie, à cause de tout un tas d'acronymes qui décrivent les traitements. C'est complexe aussi médicalement. Il y a le tabou du sexe aussi, le tabou lié à l'homophobie et à la transphobie. On manque parfois de mots, je dirais, pour parler de VIH, de son statut sérologique. Ça peut être quelque chose qui...
Oui, c'est vrai que souvent, on associe aussi ces mots à, comme l'a dit Lolita, des choses très dramatiques. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle d'apprendre qu'on a le VIH, mais en tout cas, on sait ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir bénéficier d'un traitement qui va nous permettre de rester en bonne santé. Si on a des projets d'enfants, on va pouvoir mener ça à terme. Ça veut dire aussi qu'on ne va plus transmettre. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, oui, il faut trouver des mots, il faut trouver les mots justes, mais il faut trouver des mots qui sont positifs, c'est le cas de le dire, pour parler de cette maladie.
Oui, absolument. Dédramatiser le concept et la maladie et comment on vit avec. Parce qu'en soi, il n'y a rien de dramatique.
Ouais, on peut vivre avec, quoi.
On peut vivre bien,
ouais.
Heureux et joyeux. Et...
Voilà, ça fait partie de la vie. Bon, c'est pas marrant de prendre un traitement tous les jours. Bon, et on pense bien sûr à tous les millions de personnes qui n'ont encore pas accès au traitement. Ouais. C'est ça le vrai scandale aujourd'hui. C'est que dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, des personnes n'ont pas accès au traitement. Donc c'est ça qui est encore extrêmement pesant.
On en parlait un petit peu en début d'émission, le lien avec les pouvoirs publics, le contexte politique. En 2026, ça sera les élections municipales à Paris et en 2028, les élections départementales, donc pour la Seine-Saint-Denis dont on parle depuis le début de l'émission. Or, cette association dont tu es président, elle est très soutenue par la ville et le département, qui sont tous les deux des bastions du Parti Socialiste. Il y a une semaine, la ministre de la Culture actuelle et candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati, était en campagne dans le Marais entre le Cox et le Raid, deux barguets emblématiques. On la voit prendre des selfies avec des drag queens, célébrer la vie nocturne parisienne. Rappelons tout de même qu'elle s'est abstenue de voter lors du mariage pour tous, n'a pas voté contre l'interdiction des thérapies de conversion et n'a pas soutenu le bar Merci Marcha, qui est la cible d'attaques LGBTophobes en ce moment. Dans le cas où la droite prendrait la ville, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre, vous pensez, pour la lutte contre le VIH-SIDA?
Oula.
Quelles seraient les stratégies qu'on pourrait mettre? Est-ce que les associations se sont préparées à des
formes de
résistance?
Alors j'ai envie de dire, par exemple, nous, pour ce qui nous concerne, c'est la déclaration de Paris, tu l'as rappelé, c'est un engagement de la ville de Paris. Donc là, il ne s'agit presque plus de politique, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, s'il s'agissait de parler concrètement, on aura peut-être plus de difficultés à faire valoir nos ambitions et notre programme. On est aussi soutenu par d'autres acteurs, heureusement, que la ville et le département, parce qu'on a aussi besoin de notre indépendance. Mais c'est clair que les discussions vont être âpres, les discussions vont être compliquées. Mais on va pas lâcher l'affaire.
Et toi d'ailleurs, Lolita Banana, peut-être qu'on peut faire un parallèle. Est-ce qu'au Mexique, qu'en est-il de la lutte contre le VIH? Est-ce que c'est facile aussi en tant que militant, en tant qu'artiste d'en parler? Est-ce qu'il y a...
Je sais pas. Je sais pas parce que j'habite pas au Mexique.
Oui.
Mais non, je sais, j'ai mes amis qui... séropositif au Mexique, par exemple, qui me raconte que c'est la galère que c'est avoir les traitements. Ouais. C'est pas du tout comme ici en France que t'as ton ordonnance et tu vas à n'importe quelle pharmacie, à n'importe quelle heure, en tout cas ici à Paris, et t'as ton traitement. Même quand je voyage beaucoup et je peux venir à la pharmacie et demander un traitement pour 3 mois, il n'y a pas de problème. C'est pas le cas au Mexique. Il faut aller dans un hôpital spécial et les traitements, ils sont juste dans cet endroit. Tu peux pas les chercher dans n'importe quelle pharmacie. Et je sais pas comment ils font, s'il doit voyager pendant quelques mois, parce qu'il me semble que ça vient de passer que récemment, qu'il donne les traitements pour 3 mois. Mais c'est tout récent. Mmh. Et je sais pas comment j'aurais pu faire ça, tu vois. Je passe la moitié de l'année ici, la moitié de l'année là-bas. Du coup, moi, j'ai forcément besoin d'un traitement pour quelques mois.
Bah merci beaucoup, en tout cas, Christophe Martel, Lolita Banana. La soirée Battant, Battante, c'est donc le 20 novembre au Théâtre de la Concorde. Il se trouve que le 20 novembre, c'est aussi le TIDOR, la journée du souvenir trans, journée en hommage aux personnes trans disparues, fauchées par la transphobie. Personnes trans qui sont très exposées d'ailleurs au VIH. Je crois qu'il y a un moment qui est prévu.
On a prévu absolument un moment et d'en parler pendant la soirée.
Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. 20h35, vous restez avec nous et c'est l'heure de chat. Piu piu, me semble-t-il. C'est Père Castor, c'est Père Castagne. J'ai raté la grosse blague. Bonsoir, Père Castagne.
Chut, 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 chut. Tout le monde se tait. Personne ne bouge. Attendez, parce que là, il va. Non ! Oh, il s'est envolé, c'est pas possible. Vous l'avez fait fuir.
Oh non.
Qu'est-ce que c'est, j'ai pas vu. Des semaines de trac pour apercevoir ce magnifique coucou jet qui était perché ici, tu te rends pas compte ?
Ah, il y en avait. Non, je savais pas.
Ouais, t'es bien un petit gars de la ville, toi. Franchement, il n'y a pas que les pigeons dans la ville. Ah là là, mais bon, je vois bien que ça vous passionne pas plus que ça. Bon, cela dit, le coucou jet, en fait, c'est passionnant. C'est un parasite, c'est même un kleptoparasite. Ouais, je sais. Et. D'accord, ok, je lance la chronique.
Ouais, il serait temps, ouais.
Ok, allez, 3, 4, Père Castagne, raconte-nous une histoire. Père Castagne, ouais, vous êtes content. Bon, je disais, il y a deux types.
Mais de moins en moins chanter, c'est terrible, il va falloir réengager tout le monde.
N'est-ce pas ?
On t'écoute.
Non, en fait, je disais qu'il y a deux types de parasitisme. Oui, vous pensiez y échapper, pas du tout. Donc, il y a le parasitisme intra-spécifique et le parasitisme inter-spécifique. Et là, vous vous dites, mais pourquoi on parle de ça ? Accrochez-vous. Alors, le parasitisme intra-spécifique, c'est dans la même espèce et c'est assez rare et occasionnel, c'est pour aider les couples en galère. C'est le cas, par exemple, du fuligule à tête rouge qui pond ses œufs dans le nid du fuligule à dos blanc. Oui. Alors, ça donne une sorte de coparentalité, un peu comme pour les couples lesbiens et les couples gays qui faisaient famille avant qu'on obtienne la PMA, par exemple. Bon, après, maintenant que les lesbiennes blanches et les féministes bourges, elles peuvent contribuer au réarmement démographique, on s'en fout un petit peu, hein, que les camarades trans n'aient pas accès, mais bon, c'est pas grave. Mais nous, ce qui nous intéresse ici surtout, c'est le parasitisme interspécifique. Souvent, les oiseaux ne parasitent qu'une seule espèce. C'est le cas, par exemple, pour l'hétéronette à tête noire qui s'attaque au canard. Et en même temps, est-ce qu'on pouvait attendre autre chose d'une hétéronette ? Je ne sais pas. C'est aussi le cas de notre coucou jet qui ne parasite que la pie bavarde. Ses oisillons tuent ensuite les autres œufs pour prendre toute la bouffe. Idée costume pour Halloween l'année prochaine, oui, mais surtout gros parallèle avec la fake news sur la prétendue transidentité de Brigitte Macron. Capillotracté, vous allez voir.
Ok, je vois où tu veux en venir.
Parce que pendant qu'on se crêpe la calvitie sur les plateaux télé, à savoir si oui ou non la première dame serait une femme trans, on ne parle surtout pas de nos vies à nous. On ne parle pas des tentatives de rogner l'ALD qui permet d'accéder au torso, aux vulvos et autres OP dans cette ligne. On ne parle pas non plus de l'ingérence de l'État sur nos identités, nos prénoms, nos mentions de genre lors de la procédure de changement d'état civil. Et c'est bien dommage. Ouais. Mais alors attention, parce que c'est fourbe, un coucou jet. Oui, j'y reviens. Pour permettre à la femelle de poser ses œufs, le mâle va chanter super fort pour distraire le couple de pies bavardes. It's giving Macron qui enchaîne les discours sur la dette pendant qu'on invite Moutot et Stern à Matignon. Hein. Parce que la kleptobiose, n'est pas un comportement réservé aux oiseaux. Le saviez-vous ? On le retrouve aussi chez les mouches et chez bien d'autres animaux. Mais en fait, c'est surtout un principe qu'on connaît très très bien, nous aussi. Des individus qui se nourrissent sur le dos des autres, ça ne s'appellerait pas par hasard le patronat ? C'est sûr que faire bosser les autres pour en récolter le fruit ensuite, ça permet de s'économiser. Et c'est comme ça que les riches restent riches et en appauvrissant les pauvres. Et comme la plupart des parasites, ça se reproduit à vitesse grand V. Car oui, il faut à peine quelques secondes pour un coucou jet pour pondre un œuf, contre plusieurs minutes pour la pie bavarde. C'est le même ratio pour les idées transphobes qui se vomissent sans effort sur les médias, coucou la croix, hein, qui a sorti un avenue en bien temps, pendant qu'on galère nous à expliquer à la radio ou partout sur les réseaux qu'une femme trans est bien une femme et que les enfants trans doivent être écoutés, sinon ils meurent. Oui, c'est une chronique feel good. Donc, à l'image des oisillons du coucou jet qui, à peine quelques heures après leur éclosion, sont capables de pousser les œufs de la pie bavarde hors du nid, on se demande combien de temps il faudra au gouvernement pour jeter les camarades trans sous le bus. Vous le sentez venir, vous, le grand méchant wokisme, le grand remplacement trans, hein ? C'est dommage parce que c'était pourtant l'occasion de parler des luttes trans, des luttes queer, de comment la politique économique et morale de Macron nous précarise toujours plus. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que, et vous l'avez fait, le 20 novembre, c'est la journée du souvenir trans, le TIDOR. Et franchement, moi, je m'en fiche un peu de savoir si Brigitte Macron est trans. Ce que je veux en revanche, c'est qu'être trans ne soit pas synonyme de discrimination. C'est que nos identités soient une fête et non un risque accru de se suicider ou de se faire tuer. Alors Brigitte, tu ne m'écoutes peut-être pas.
Je sais que si.
Je te le souhaite quand même. Mais si tu es trans, ou même si tu es juste allié, bah viens, rejoins nos luttes, on t'attend. On t'attend le 15 à la Flèche d'Or à Paris, le 19 à Nice, le 20 à Avignon, à Saint-Étienne, à Lyon, à Tours, à Paris aussi certainement, à Montpellier. D'ailleurs, Yael cherche des bénévoles si tu t'ennuies. Le 21 à la station Gare des Mines à Paris à nouveau et le 22 à Strasbourg et partout en France. Allez Brigitte, on compte sur toi.
Merci chat, bah dis donc, quelle belle acrobatie de l'ornithologie au Tidore en passant par une fake news transphobe.
J'ai appris tellement de choses.
On va continuer nous à célébrer les transitions et les transitudes avec une superstar, c'est Loa Mercury qu'on croise à Madame Arthur et qui jouera très bientôt les chansons de son premier album à venir sur la scène de la Maroquinerie. En attendant, bah, je le rappelle, rendez-vous sur le site du Théâtre de la Concorde pour prendre vos place pour Battante, la soirée organisée par Vert Paris et la Seine-Saint-Denis sans sida. Ce sera donc le 20 novembre et c'est gratuit. Restez avec nous, le lobby revient dans un instant. Los Angeles, c'est le dernier single de Loa Mercury à retrouver le 15 décembre, donc en concert à la Maroquinerie. Il reste encore quelques places, 20h43.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Yeah. Et on continue à remplir vos agendas ce soir avec ton invité Aglaé. On parle d'un bal de promo, je crois.
Exactement. Tiens on donc. Est avec Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Donc tu représentes ce soir l'association des journalistes LGBT, l'AJL, pour nous parler de votre gala haut en couleur qui s'intitule Out la prom. Donc ça a lieu ce samedi 15 novembre à Césure dans le 5e arrondissement de Paris. Et avant de parler du gala, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'AJL, quelles sont vos principales missions? Toi, qu'est-ce que tu fais au sein de cette association?
Eh bien, l'AJL, c'est l'association des journalistes LGBTQIA+. Comme son nom l'indique, nous sommes des journalistes et autres métiers de la presse qui font partie de la communauté LGBTQIA+. On fait beaucoup de choses. On fait des études médiatiques, on fait de la formation dans les écoles, beaucoup. On fait de la veille sur les réseaux et ça nous flingue parfois la santé mentale. Mais bon, il faut bien c'est le sûr. Faire. Et on fait aussi des événements comme celui dont on va parler aujourd'hui. Et moi, je suis membre. J'aide à la com, je fais de la format de temps en temps. Et là, je coordonne la teuf.
Ah ouais, quand même. Beaucoup de responsabilités.
que du fun.
Alors, pourquoi avoir choisi le thème out, la prom? Bah, évidemment, on pense au bal de promo, donc qui est quand même très normé dans l'imaginaire. Pourquoi ce thème?
Alors, le but, c'était de faire... tous les ans, on fait un événement. Et là, ça fait depuis... C'est la deuxième année où on fait une teuf. L'idée, c'est un peu de se rassembler. Après avoir milité toute l'année, on peut s'offrir un petit moment de fête, de rêverie, de fun, où on peut danser comme des ados. Et pourquoi la prom? On s'est inspiré en vrai de queer proms qui existent en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, où les droits des personnes LGBTQI+ sont bien plus précaires qu'ici. Et en fait, c'est des événements qui sont organisés par des personnes LGBT qui se disent bah, « en fait, vos bals de promo, ils sont pas du tout inclusifs. Du coup, bah, nous, on va faire les nôtres et vous pouvez venir comme vous voulez, avec les personnes que vous voulez, habillés comme vous voulez. Et c'est un safe place. » C'est un safe place. Et nous, on s'est dit, ça a l'air super, on va refaire la même ici.
Parfait.
Voilà.
Donc voilà, c'est une manière de se réapproprier ce moment qui est quand même très hétérocentré dans les représentations, dans comment ça se passe, etc.
Il y a aussi beaucoup l'élection du roi et de la reine du bal, qui est souvent un couple hétéro. Ah ouais. C'est dur.
On a l'image, vraiment. Et du coup, ce sera aussi un truc important entre festif et politique, c'est que c'est un gala qui va être à prix libre. Donc il y a quand même, j'ai vu, un minimum de 7€ pour assister au show. Le prix libre, c'est quand même un choix militant. Est-ce que c'est une manière de rendre l'événement plus inclusif ou de soutenir financièrement certaines actions de l'asso?
Alors nous, on le fait pas du tout pour récolter de l'argent. Mais voilà, l'idée, c'est de... On a mis la table ronde à prix libre parce que c'est une conférence et qu'on a beaucoup plus de jauge et qu'on peut se permettre, au vu de nos trésoreries, de le faire. Et c'est important, en fait, surtout pour les... En fait, on espère qu'il y ait beaucoup de journalistes, de parents, de médias, d'étudiants et étudiantes en journalisme aussi qui viennent. Et ça, c'était aussi un gros point où on s'est dit, mais en fait, si on veut inviter les écoles, ça ne peut pas être cher, une table ronde. Ouais. Voilà. On rémunère quand même nos intervenantes et modératrices parce que c'est une expertise et ça se rémunère, voilà.
Et alors, autre sujet beaucoup plus superficiel, mais qui dit gala dit tenue chic, j'imagine. Est-ce qu'il y a un dress code où c'est vraiment chacun vient comme il lui plaît?
Alors, il y a un dress code, mais j'adore. C'est un peu comme le prix libre. Il y a un dress code conseillé, mais vous faites vraiment ce que vous voulez.
Okay.
C'est vraiment, je sais pas vous, mais moi j'ai une tonne de robes de soirée. Une tonne, n'abusons pas, j'en ai 3-4, un très joli costume et deux très jolies robes.
Et que tu n'as jamais l'occasion de mettre.
Voilà, que je ne porte absolument jamais, sauf dans des soirées d'anniversaire thème overdressed. Et donc ça, c'est vraiment l'occasion de sortir votre plus belle tenue du placard. Évidemment, qui dit tenue de bal en novembre dit vestiaire que nous avons organisé pour vous et que nous mettrons à votre disposition gratuitement. Mais oui, soyons beaux, soyons belles, soyons bello. Sortez la plus belle tenue et si c'est un jean, c'est un jean, ça nous va.
Et ce sera la plus belle tenue. Alors les portes ouvrent à 16h30. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le programme de la soirée?
Alors, 16h30, ouverture des portes. Ça vous donne un peu le temps de faire un petit tour, dire bonjour aux stars de la JL et aux non-stars de la JL. À 17h30, on commence la table ronde en grande pompe. Elle durera 2h, plutôt 1h30, mais avec un gros temps de questions-réponses. Après, on enchaîne sur un petit battement où on peut se sustenter à la cantine de Césure. Il y aura des stands associatifs. On accueille nos assos cousines, on va dire, avec qui on crée le triangle du wokisme journalistique, comme on aime l'appeler entre nous. J'ai nommé Prenons la Une et l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et on a aussi un petit stand librairie, parce qu'on a plein de membres qui sont auteurs et autrices et qui ont beaucoup de talent et qui ont créé des superbes ouvrages. Et on s'est dit, qui dit bal dit autopromo. Non, pas du tout, mais on l'a fait quand même. Et donc, il y a la librairie féministe Un livre et une tasse de thé qui sera présente et qui tiendra un stand avec des ouvrages thématiques qui sont en lien avec la table ronde et des ouvrages qui sont écrits par nos superbes membres.
Tu nous dis quelques mots de cette table ronde qui semble très intéressante.
Alors, cette table ronde, c'est aussi vachement lié au thème. En fait, avec tous les reculs de nos droits, la montée des extrêmes droites en Europe et dans le monde, plus généralement, ça précarise énormément nos droits de personnes LGBTQIA+. Et au centre de ces paniques morales, il y a la place des enfants. Et il y a beaucoup de discours réactionnaires qui se cristallisent autour de la protection, je mets entre gros guillemets, des enfants. Et le rôle des médias là-dedans est un peu flou. Et donc, voilà, c'est une table ronde sur l'instrumentalisation des enfants dans ces discours réactionnaires. Et pour nous en parler, il y aura la journaliste et autrice Maëlle Lecor.
Qu'on a reçu ici, qu'on aime beaucoup.
Voilà, qui est de la JL. C'est globalement beaucoup de personnes de la JL. Il y a Léa Nalestra, qui est autrice, qui a récemment publié un ouvrage qui s'appelle Les Vigilantes, qui parle des femmes qui sont un peu au service de l'extrême droite. Et il y aura Lies Loufoque, qui est militant des droits de l'enfant et essayiste, qui est un ancien enfant placé et qui a beaucoup témoigné dans un livre qui s'appelle Dans l'enfer des... Et là, j'ai un trou.
Je ne peux plus t'aider.
Mais c'est pas grave. Vous verrez Lies Loufoque, c'est sur Google. Et il milite vachement pour le droit des enfants. Ouais. Et ce sera modéré par Aline Laurent-Maillard, oui, qui a un podcast qui s'appelle Paillettes et préjugés. Est-ce que vous n'avez pas envie de l'écouter?
Parfait.
Rien que pour le titre, qui est parent également et qui parle beaucoup du genre et de la construction du genre chez les enfants.
J'ai envie de me tourner vers toi, Christophe. Forcément, il y a beaucoup de noms, notamment celui de Maëlle, avec qui tu as travaillé dans différents médias. Je pense à Comitid, surtout.
Comitid, oui. Voilà. Et Yag aussi, elle était journaliste à Yag.
Et Yag aussi, elle était déjà là, ouais, des médias que tu as cofondés. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui te parlent dans ce que dit Juliette Cordemans de la JL. Moi, une question que j'ai envie de te poser, peut-être à Lolita aussi, c'est ce truc de crispation autour des enfants, de la protection de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est toujours quelque chose qui est porté en étendard par des mouvements conservateurs. On l'entendait à la Manif pour tous. Mais je pense que ça remonte à assez loin. Il y a un truc un peu cyclique comme ça, j'ai l'impression, peut-être, Christophe.
Ah, tout à fait. Dès les années, enfin, on va remonter à la calandre grecque, mais les années 20, dans les années 30, on parlait déjà de ça, de protéger la jeunesse, les enfants. On faisait les amalgames entre pédophilie. Alors à l'époque, on disait pédophilie, on ne disait pas pédocriminalité, et homosexualité. Enfin, tout ça, ça a toujours été ça. Ça a toujours été cette rengaine horrible et rance qu'il faut dénoncer, effectivement. Mmh. Et tant mieux que la JL, enfin, elle le fait depuis toujours, mais qu'elle continue à le faire et sur ce modèle-là.
Toi, Lolita, j'imagine que ça te parle aussi, parce que je me souviens qu'au moment de la diffusion de la première saison de Drag Race France à laquelle tu as participé comme candidate, il y a eu aussi tout un tas de discours sur les drag queens qui cherchent à pervertir la jeunesse. On réduisait le drag à de la perversion, de l'exhibition sexuelle. Est-ce que toi, ça a pu t'atteindre aussi, ces discours, à un moment?
Oui, les drags, c'est la perversion sexuelle, c'est vrai. Non, mais je me rappelle un jour, il y a à Toulouse ou à Montpellier, il y a quelqu'un qui a fait des affiches. Ils ont pris une très très mauvaise photo de la briochée, la pauvre, pour dire il y aura des drag queens qui vont venir pervertir vos enfants. Peut-être la briochée, c'est le cas, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, c'est vrai que c'est ridicule, quoi. C'est rance, comme tu dis. Et je viens de voir une vidéo de Ariana Grande. Sorry, I'm such a fan. Mais elle a fait un concert et à un moment donné, elle fait monter un gamin, c'est un petit gosse de 4 ans, habillé en elfaba. Ah, et il fait la chanson de Popular avec. Mm. Et du coup, c'est génial parce qu'à aucun moment, personne fait du bruit par rapport à. This little guy is doing drag à 4 ans. Et c'est génial. Et on fait ça. Et la famille la soutient. Et du coup, en fait, juste écoutez vos enfants et voyez ce que ça leur fait plaisir. Si vous voyez la quantité des enfants qui viennent au brunch de drag queen et qui kiffent et qui s'adorent, et que bien sûr qu'on n'est pas con, on sait s'ajuster au public qu'on a devant nous. On peut faire des cochonneries, mais aussi on peut être auprès des dames.
Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Juliette, d'être passée chez nous. Out le prom, c'est ce week-end, le 15 novembre, à Césure, dans le 5e arrondissement. Billetterie sur la page du lobby et sur le site de radiocampusparis.org.
Toutes les infos sont sur notre page Instagram, ajlgbt.info.
Merci beaucoup. Allez, à 20h53, une autre drag queen dans ce studio, c'est Javel Habibi.
Oui.
Et comme chaque mois, c'est un peu un nouveau rendez-vous cette saison. Tu nous emmènes au cinéma, Javel.
Tout à fait, Colin. Et après La Rumeur, un film magnifique et chialant sur la lesbophobie, j'ai choisi ce mois-ci un film magnifique et chialant sur les amours impossibles.
Super.
Ce film, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, un film hétéro mais queer dans sa forme, parce que libre et moderne, et qui nous rappelle que les histoires d'amour finissent mal en général, en tout cas souvent plus mal que les histoires d'amitié. Alors, nous voilà dans un monde façon Black Mirror, où il est possible d'effacer au laser nos souvenirs traumatiques, qu'il s'agisse de la disparition de notre chien Baba ou de la fin d'une histoire d'amour, jusqu'à en oublier tout lien avec la personne disparue, Voilà, des bienfaits, me direz-vous, de l'amnésie volontaire. C'est un peu comme quand ta relation du moment soudain te ghost et qu'en représailles, tu effaces rageusement votre historique WhatsApp pour te prouver ton indépendance. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, nous voilà donc propulsés dans la vie de Joël, interprété par Jim Carrey, découvrant que sa petite amie Clémentine, jouée par Kate Winslet, vient de l'effacer sur un coup de tête. Après 2 ans de relation, dès lors, Joël est contraint de faire un deuil blanc. Avec cette question, peut-on faire le deuil de quelqu'un qui n'a pas disparu mais qui nous a oubliés? Comment on continue d'avancer, soudain orphelin du lien qu'on avait avec l'autre? Parce que c'est ça, quand même, souvent, le traumatisme dans les ruptures. Eh bien, la piste que suit Joël, c'est finalement d'effacer Clémentine à son tour, ce qui, dès lors, leur donne la possibilité de se re-rencontrer. Autrement dit, d'y retourner sans se poser de questions pour finalement refaire les mêmes erreurs. Parce que ce que nous montre le film, c'est que finalement, effacer la souffrance, c'est effacer aussi l'apprentissage qu'on en avait tiré. Et en gros, vous aurez beau effacer votre mémoire, si jamais vous rappelez votre ex sans qu'aucun des deux n'ait fait un travail sur soi, bon, bah, il y a toutes les chances que ça marche pas mieux, en fait. La même équation produisant les mêmes résultats. Alors, ce mécanisme, eh bien, j'ai découvert hier, mais j'aurais aimé l'apprendre plus tôt, j'ai découvert hier qu'il porte un nom, c'est la pulsion de répétition. Voilà, cette tendance à refaire toujours les mêmes erreurs, convaincu que non, cette fois-ci, ce sera la bonne. Et nous voilà, 6 mois plus tard, à ressusciter cette conversation WhatsApp, nous mettant à croire cette fois à la magie de Noël. Mais le film nous dit en fait 2 choses que je trouve très belles. Alors déjà, il nous dit que même si parfois certaines histoires sont comme des boucles temporelles, eh bien une relation qui se termine n'est pas forcément une relation qui échoue. Car même si les histoires d'amour finissent mal en général, elles peuvent être les étapes importantes d'un parcours de vie. Et puis, il nous dit la nécessité du risque. À la fin, les personnages savent que sans doute, ça ne marchera pas. Mais pour le moment, ils ont encore besoin de le vivre, alors ça vaut la peine d'essayer. Clémentine prévient qu'elle finira par s'ennuyer et Joël répond « Ok ». Ce qui donne quand même le « ok » le plus chialant de l'histoire du cinéma. Alors, je vous parlais en introduction de la pérennité des histoires d'amitié qui souvent durent un peu plus que nos histoires d'amour. La puissance du lien, elle est au cœur de l'expo photo « Nous autres » qui met en valeur les travaux de Donna Gottschalk et Carla Williams, organisée par la commissaire d'exposition Hélène Gianecchini. Donna Gottschalk, elle fait partie de ces femmes photographes qui, comme Vivienne Mayer, ont pratiqué la photo toute leur vie mais n'ont pas eu le loisir d'être reconnues artistes. Et c'est l'occasion de traverser avec elle une vie entière. Elle documente d'abord l'absence de lieux lesbiens dans le New York des années 60, quand elle se photographie avec ses copines Butch dans la cour de son immeuble, parce que c'est alors le seul endroit où il est possible de faire communauté. Puis les premières réunions du mouvement de libération homosexuelle où des femmes pensent ensemble leurs conditions de femmes, lesbiennes, mères, amoureuses. Mais surtout, elle photographie les liens au quotidien avec les visages qui peuplent sa vie et parfois en disparaissent, à commencer par sa sœur trans qui pose pour elle pendant 50 ans. En ça, elle élargit l'iconographie des représentations LGBTQ+, qui la plupart du temps nous représentent soit dans la lutte, soit dans la fête, pour nous montrer aussi en dehors et tout simplement dans la vie. Et c'est le lien pour moi avec Eternal Sunshine, parce que cette lumière éternelle, ce sont ces rencontres qui font une vie, ces personnes avec lesquelles on chemine parfois 3 heures, parfois 50 ans, les amours et les amitiés qui vous changent, vous grandissent et vous façonnent. L'expo Nous Autres est au bal jusqu'au 16 novembre. Profitez-en.
Merci beaucoup, Javel. Oui, on se dépêche hein, jusqu'au 16 novembre, c'est ce samedi, d'aller voir l'exposition Nous autres au bal. On peut aussi lire le magnifique livre d'Hélène Gianecchini, Un désir démesuré d'amitié. J'ai vu que ça vous avait parlé, Christophe.
Il faut vraiment y aller. C'est magnifique. Les textes sont très beaux, les photos sont incroyables.
Et puis conserver cette mémoire, etc. Ça, c'est tout aussi fait. Beaucoup au cœur de ton travail de militant, de journaliste. Oui, Aglaé.
Et le mercredi, c'est gratuit pour les étudiants.
Ah,
voilà.
Bah, voilà. Et en plus, je sais que pour la dernière semaine, ils ont un petit peu augmenté les horaires, donc profitez-en. 20h58. Il nous reste très très peu de temps, mais on essaye toujours de finir par cette petite séquence bisounours où il faut dire merci à quelqu'un. Christophe, je te laisse la parole à quelqu'un ou à quelque chose.
Bah, merci à déjà toute cette équipe.
Bah, c'est trop facile.
À l'équipe de Vers Paris Sans Sida. Non, et j'en profite, je veux vraiment remercier Lolita Banana parce que sa prise de parole lors de l'émission Drag Race France, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut parler quand on est séropositif, c'est pas toujours évident, mais ce que tu as fait, c'était magnifique.
Voilà, ah bah Lolita.
Merci à toi. Et à mes parents, parce qu'ils m'ont donné le subtil de devenir qui je suis maintenant. Et je dirais que j'ai fait un discours pour les Oscars.
C'est adorable. Merci beaucoup. Battant, battante, une soirée de réengagement citoyen contre le VIH, c'est jusqu'au 20 novembre au théâtre Le Concorde. Entrée gratuite sur réservation. On vous met le lien sur radiocampusparis.org à la page du lobby. Et puis merci Juliette Cordemans. Out le prom, c'est le 15 novembre à partir de 20h. À partir de 17h30 à Césure. 16h30 à Césure, ouverture des portes, billetterie à retrouver exactement au même endroit. Merci à toute l'équipe du lobby. À la réalisation, c'est Nathaniel Drance. Merci beaucoup. Au pied levé qui a remplacé Suzanne. Au micro, il y avait Lucie, Agla et Javel et Chat. Et dans un instant sur Radio Campus Paris, place au pays des raves. On a 30 secondes pour en dire quelque chose. Non, le micro n'est pas allumé, Elodie. Non, mais sinon, vous savez quoi, c'est pas grave. Mais restez sur Radio Campus Paris, il faut absolument écouter au pays des raves, ça va être absolument passionnant. Bonne soirée sur le 93.9.